Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac pour notre émission de rentrée après trois longs mois. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Sébastien Blavier de Greenpeace France et membre de la coalition Climat 21, coalition qui se crée dans le cadre de la COP21 qui se tiendra à Paris au mois de décembre. On en reparlera tout à l'heure avec lui par téléphone. Et avant cela, on reprend notre année comme d'habitude avec nos billettistes. Et bah, Georges, notre spécialiste de Fukushima, a plein de nouvelles à nous annoncer.
Oui, enchanté, chers auditeurs et auditrices. Voici les dernières infos du Japon nucléaire, toujours d'après Fukushima Blog. Alors tout d'abord, les défauts de la morphologie des sapins japonais endémiques aux alentours de la centrale de Fukushima Daiichi. Après l'accident à cette centrale, en mars 2011, on a porté beaucoup d'attention aux conséquences biologiques du relâchement de radionucléides dans son proche environnement. La recherche s'est intéressée aux modifications dans la morphologie du sapin japonais, un conifère japonais présent à l'état naturel de façon endémique sur des sites proches de la centrale. Elle a pu observer sur les populations de sapins japonais poussant près de la centrale une augmentation de défauts morphologiques significatives, concernant des suppressions de rameaux de tête sur l'axe principal, par comparaison avec une population de référence située loin de la centrale. La fréquence de ces défauts a pu être mise en correspondance avec les niveaux de contamination des sites d'observation. Ces résultats conduisent à la conclusion que la contamination par des radionucléides aurait contribué à des déficiences dans la morphologie des sapins japonais situés dans une zone proche de la centrale.
Et alors Georges, après ces problèmes de sapins, tu veux nous parler du réacteur numéro 1 de Sendai?
Oui, qui a été remis en route le 1er août. Situé dans le sud de l'île de Kyushu, ce réacteur déjà âgé de 32 ans est le plus dangereux selon l'avis d'un inspecteur. Il a été remis en route par la compagnie d'électricité de cette île où aucun réacteur ne fonctionnait depuis septembre 2013. Or, 2 ans et demi plus tard, les Japonais ont eu à nouveau de l'électricité d'origine nucléaire, bien que plus de 60% de la population s'y oppose. Pour ce réacteur, on mentionne principalement 3 dangers. Tout d'abord, le réacteur n'est pas équipé d'un récupérateur de corium qui permettrait de récupérer les combustibles en fusion en cas d'accident grave. Ensuite, dans l'île de Kyushu, il existe un danger d'énorme éruption du volcan Sakurajima. La compagnie affirme que, avant une possible éruption, elle s'arrangera pour retirer les barres de combustible et les transportera quelque part. Mais les vulcanologues disent qu'il est impossible de prévoir une éruption d'une telle ampleur. Le 18 août, le volcan du mont Sakurajima, cité précédemment, est entré en éruption pendant 50 minutes. Enfin, les plans d'évacuation ne sont pas encore suffisants. Le gouvernement se contente d'inciter les communes autour des centrales à établir des plans d'évacuation, mais même en l'absence de ces plans, les compagnies électriques ont le droit de réactiver les réacteurs. Enfin, je veux signaler que le réacteur a démarré le 1er août. Il a été arrêté le 21 août pour problème de pompe. Ensuite, pour conclure, finalement, l'ancien président de TEPCO et d'autres seront accusés. En effet, le 31 juillet, la Cour de révision de Tokyo a publié la décision de mettre en accusation les 3 anciens dirigeants de TEPCO pour crime d'homicide. Elle a allégué que ce grand tsunami de 2011 était prévisible, qu'ils auraient dû prendre des dispositions appropriées pour s'en protéger et même arrêter le fonctionnement des réacteurs. Jusqu'à présent, le parquet de Tokyo avait décidé à 2 reprises qu'en raison d'insuffisance de preuves, il ne devait pas les accuser. Les victimes de Fukushima se sont opposées à cette décision et ont demandé sa révision. Elles ont donc obtenu satisfaction.
Eh bien, on est bien content et on espère que ça ira au bout.
Tout à fait.
Eh bien, maintenant, la place à une nouvelle billettiste, parce que c'est la première fois qu'elle arrive dans notre studio, mais ça va, elle n'a pas l'air trop gênée. Annie, tu vas nous parler de Fessenheim.
Oui, bonjour à tous. En fait, vous savez tous que nous sommes ici pour demander la fermeture de Fessenheim. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner un argument supplémentaire qui est de taille. Fermer Fessenheim dès 2016, c'est possible et c'est RTE qui le dit. RTE, c'est le réseau de transport d'électricité qui vient de publier son bilan prévisionnel 2015. 101 pages, très instructives. Et si vous êtes amateur de chiffres et de graphiques, je vous invite à aller y jeter un œil. RTE, service public, c'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité haute tension. Le réseau moyenne et basse tension est quant à lui à la charge de EDF. Ce vendredi 25 septembre 2015, RTE a donc indiqué, je cite, « Les besoins en électricité de la France seront correctement couverts cet hiver et le pays retrouve des marges de sécurité en matière d'approvisionnement jusqu'en 2020 grâce à la disponibilité des moyens de production face à une consommation déclinante. » Ainsi, RTE a la responsabilité de faire évoluer le réseau pour intégrer la part croissante des énergies renouvelables et doit avoir une vision sur l'évolution du système électrique à 5 ans grâce à son bilan prévisionnel. Combien d'électricité consommerons-nous? Quel mode de production? L'équilibre offre et demande sera-t-il respecté? RTE doit vérifier la sécurité d'approvisionnement du pays et sa capacité à faire face aux pointes de consommation hivernale. C'est donc quelqu'un de très sérieux quand même. Pour cela, plusieurs hypothèses sont testées. Et l'une d'entre elles nous intéresse particulièrement car elle intègre la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim en 2016. Et RTE confirme que même dans ce cas, les marges de sécurité d'approvisionnement sont suffisantes, même si l'EPR de Flamanville n'a pas été ouvert. L'amélioration du matelas de sécurité de la France s'explique entre autres par le développement des énergies renouvelables. L'éolien terrestre devrait croître à lui seul de 1000 MW par an jusqu'en 2020, mais aussi par la montée en puissance de l'effacement. Vous savez, c'est cette pratique qui consiste pour un consommateur à réduire temporairement et volontairement sa consommation d'électricité pour limiter les pointes. Il est aussi important de souligner la consommation dite déclinante. Et oui, l'efficacité énergétique commence à porter ses fruits. La RT 2012 pour les constructions neuves, l'éco-conception, l'affichage énergétique des appareils ménagers. Allez donc voir à la page 25 du rapport. Deux courbes présentent une baisse importante, la consommation de nos réfrigérateurs et congélateurs et la puissance d'éclairage dans notre intérieur. Une forte baisse et sans retour à la bougie. Et le rapport précise, je cite, « À cela s'ajoutent les effets comportementaux, que ce soit par souci d'économie budgétaire ou de réduction d'empreintes écologiques. » Il n'y a pas de petite économie et nous sommes donc tous concernés. Ainsi, doucement, le scénario sobriété, efficacité et énergie renouvelable prend forme et doit être accentué. Mais ce que nous retenons de ce rapport de RTE, c'est qu'aucun obstacle technique ne s'oppose à la fermeture de Fessenheim dès 2016. La fermeture de cette centrale nucléaire ne dépend donc que de choix politiques. Les risques encourus sont connus de tous. Plus de 7 millions d'habitants français, allemands et suisses sont dans un rayon de 100 km. Alors, plus d'excuses bidons, c'est le moment, on la ferme.
Merci Annie. On va vous passer plusieurs chansons de Tiken Jaffa Coli pour au moins trois raisons. D'abord, la première parce qu'on l'aime bien. La deuxième parce que c'est un réfugié. Et qui aujourd'hui représente pour beaucoup la France, ne serait-ce que dans ses ventes de disques. Et la troisième, c'est aussi en solidarité avec les peuples d'Afrique, notamment le Burkina Faso, qui se sont révoltés contre une tentative de coup d'État militaire. Et on sait combien Tiken Jaffa Coli est attentionné et a fait très attention au pays qui environne son pays, la Côte d'Ivoire à lui-même. Donc voilà Tiken Jaffa Coli.
My people. Dark brown shade of my skin, only adds color to my tears that splash against my hollow bones, that rocks my soul. Looking back over my past dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Oh, somebody tell me.
what can I do? Ah, yeah. Something is holding me back,
holding me back.
Is it because I'm black?
In this world of no pity, I was raised in the ghetto of the city. Hey.
Mama, she worked so hard to earn every penny. Something is holding me back. Is it because I'm black?
Is it because I'm black?
Yeah.
Something is holding me back.
Is it because I'm black? Stealing his first piece of candy, got caught.
Wandering round life's corner, somewhere I got lost.
Something is holding me back. Is it because I'm black?
I wanna know, yeah.
Something is holding me back.
People,
is it because I'm black?
Tell me, can't you see?
Somebody, please tell me, is it because I'm black?
Is it because of my color?
Vous êtes toujours sur Atomic Mac, l'émission de Stop Nucléaire Drôme Ardèche, et nous sommes, comme je l'annonçais tout à l'heure, avec Sébastien Blavier de Greenpeace France et de la coalition Climat 21. Sébastien, tu nous entends bien ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Voilà, alors nous allons aborder aujourd'hui, quelques semaines de son ouverture, le 30 novembre au Bourget, aborder les enjeux de la COP 21. Alors la COP 21, qu'est-ce que c'est ? C'est la conférence des parties, ça s'appelle COP, qui constitue l'organe suprême de la convention dans le cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la convention qui a été adoptée au cours du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 92. Cette 21e conférence, la 20e était à Lima en 2014, concernant les changements climatiques, rassemblera 20 000 représentants, représentantes et observateurs venus du monde entier. Elle se donne pour objectif d'aboutir à l'adoption d'un accord universel et contraignant sur le climat afin de maintenir la température globale sur la Terre en deçà d'un réchauffement de 2 degrés centigrades. Alors Sébastien, vous êtes membre de Greenpeace France et un des animateurs de la coalition Climat 21. Avant d'aborder la signification et les objectifs de cette coalition, il serait bon que vous nous éclairiez sur ce que c'est que cette COP 21, sur ce que le monde entier en attend et sur les probabilités d'un accord mondial visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Sachant que plus grand monde aujourd'hui se déclare sceptique quant à la réalité et aux conséquences d'un réchauffement climatique, qu'est-ce que vous en dites un petit peu de cette COP 21 ?
Eh bien, écoutez, oui, vous l'avez rappelé dans votre introduction, hein, c'est l'objectif que se sont fixés les États à Paris, c'est d'obtenir pour la première fois un accord qui engagerait tous les pays dans la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est-à-dire que ce ne serait plus uniquement les pays industrialisés ou une partie comme on avait eu pour le protocole de Kyoto, mais bien un accord qui engage l'ensemble de la planète dans la même direction, avec comme première date de démarrage qui serait après 2020, et puis après avec des échéances petit à petit. Après, nous, ce qu'on en pense en tant que Greenpeace et ONG de cette conférence, c'est que c'est des négociations qui sont indispensables, mais qui seront insuffisantes. Indispensables parce que elles doivent permettre de donner un cadre international de lutte contre le changement climatique, mais on sait très bien que de toute façon, ces négociations, ce ne seront pas la baguette magique qui va sauver le climat. Donc on en a besoin parce que ça crée un effet d'entraînement, ça doit aussi permettre à un très grand nombre de pays de s'engager dans la lutte contre le changement climatique, mais après, on le sait très bien, même si l'accord était idéal, eh bien tout resterait à faire en fait au niveau des capitales, au niveau national. Donc voilà, donc il faut travailler d'arrache-pied pour essayer d'avoir un accord à Paris qui puisse être le plus ambitieux possible. Après, on sait d'ores et déjà qu'il permettra pas, et vous vous posez la question, mais je pense qu'on sait déjà qu'il permettra pas de fixer des objectifs qui, mis en œuvre, nous permettraient collectivement de rester en dessous de cette barre hein, symbolique des 2 degrés de réchauffement. Mais ça doit être un point de départ, et un point de départ qui après doit être amélioré et permettre d'accélérer la lutte mondiale contre les changements climatiques.
Oui, donc si on comprend bien, l'intérêt de cette COP quand même, c'est que finalement, c'est tous les pays du monde qui s'y mettent et pas seulement les pays les plus riches. Ça, c'est déjà le point positif, quoi.
C'est ça, c'est l'ensemble des pays. Après, de toute façon, la question de la responsabilité historique des pays industrialisés, elle doit être reconnue, puisque aujourd'hui, on le sait, hein, ce sont les pays qui ont le plus émis, ce sont les pays développés, puisqu'ils ont assis leur développement sur justement la combustion d'énergie fossile, et donc qui ont cette combustion, c'est ça qui a créé les conditions actuelles du réchauffement, donc ils doivent, eux, faire la plus grande part de l'effort. Mais ce sera pas suffisant, et tous les pays, notamment les pays émergents, doivent s'activer. Et on le voit, la Chine qui a fait des annonces récentes avec en partenariat avec les États-Unis. Voilà, ça c'est tous ces accords-là qu'il va falloir mettre sur la table et qu'il va falloir coordonner pour se diriger dans une direction qui permette d'enclencher hein, cette lutte internationale contre le changement climatique.
Oui, cela dit, on l'a vu, un article du Monde de ce week-end rappelle que 147 pays ont établi leur programme d'ici 2030, 147 sur 195 que compte la conférence onusienne, là. Le premier bilan qui commence à en être fait, c'est que toutes ces prévisions état par état dépassent très largement les préconisations du GIEC, hein, le groupement des scientifiques mondiaux. Et donc voilà, on va quand même si on s'arrête à ces programmes locaux, régionaux de pays, on va quand même vers un échec d'une certaine façon.
Alors tout à fait, l'ambition elle n'est pas encore là, hein. Et puis au premier rang de ce manque d'ambition, il y a l'Union européenne, hein, vous savez, parce que l'Union européenne fait une contribution collective, donc les 28 membres de l'Union européenne font une contribution collective en termes d'objectifs, et on voit que l'ambition elle est pas là, hein. Clairement on va avec ce qui est aujourd'hui sur la table dépasser cette cible des 2 degrés, donc ça c'est un problème qui est clair et qui est identifié, et donc vu qu'aujourd'hui, je pense qu'en tout cas c'est l'ambition des négociateurs et notamment de la présidence française, vu qu'aujourd'hui, eh bien d'ici Paris, on sait qu'on n'arrivera pas à faire mieux, comment est-ce qu'on fait au sein de l'accord de Paris pour avoir un mécanisme qui nous permette d'augmenter cette ambition année après année. Et donc c'est pour ça que les notamment les ONG comme Greenpeace disent, eh bien voilà, on va avoir un accord de Paris qui va rentrer en vigueur à partir de 2020, eh bien il faut que tous les 5 ans, on ait un mécanisme automatique de réévaluation de ces des contributions nationales des différents pays pour qu'elles augmentent, pour que les pays augmentent pardon leurs ambitions, pour que cette ambition augmente et que petit à petit on se mette sur cette trajectoire des 2 degrés en réduisant drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre.
Oui, en sachant que les 2 degrés, c'est un moindre mal pour l'instant, mais c'est déjà des conditions, on le voit aujourd'hui, avec des problèmes climatiques. Alors là, on va d'aborder un petit peu, effectivement,
bien sûr, bien sûr.
Ça va être l'occasion d'aborder un peu la coalition Climat 21. Auparavant, un certain nombre d'ONG ou d'associations, de syndicats participaient directement à la COP. Là, il semblerait que toutes ces associations, syndicats, etc., aient décidé de faire quelque chose un peu à côté.
Bien sûr. Alors depuis la création hein, des conférences sur le climat, donc vous l'avez rappelé en 92 à Rio, il y a des observateurs. Donc il y a d'un côté les pays, ce qu'on appelle les partis, qui négocient, et puis il y a des observateurs comme les syndicats, les organisations non gouvernementales et organisations environnementales, les scientifiques, et aussi hein, les entreprises, et notamment ça c'est un problème que les ONG ont dénoncé, puisqu'elles effectuent un lobby agressif hein, sur les positions des pays. Et donc voilà, donc il y avait cette position d'observateur. Et puis depuis la conférence sur le climat de Varsovie, donc c'était en 2013, eh bien il y a eu un mouvement qui s'est créé avec les syndicats, les représentants de la société civile, les organisations non gouvernementales pour dire voilà, on peut être dedans, mais dedans ça ne suffit pas, il faut aussi faire des choses dehors de ces conférences. Il faut aussi qu'on s'allie en dehors pour envoyer nos signaux au sein des sociétés, puisque encore une fois, tout ne se fait pas à l'intérieur du centre de conférence, et donc il faut qu'on agisse absolument de manière coordonnée en dehors. Et notamment, il y a eu cette sortie de la société sécurité civile à Varsovie il y a 2 ans pour dénoncer le lobby des grands groupes industriels, du charbon, du pétrole, pour dire stop, ça suffit. Ce sont des entreprises qui nous envoient dans le mur, elles sont la cause du problème et puis on les inviterait à la table comme source de la solution. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc c'est comme ça que la coalition Climat 21 est née fin 2013, début 2014. Et c'est au sein de cette coalition qu'on prépare toutes les mobilisations pour la conférence de Paris d'ici 2 mois.
Alors c'est une coalition internationale, on parle de 135 organisations de 37 pays différents. C'est pas trop difficile d'essayer de mettre toutes ces organisations un peu différentes, qui n'ont pas toujours les mêmes objectifs autour de la table?
Eh bien, je crois que le principe, le cœur de cette coalition, c'est d'être d'accord qu'il y a de la diversité, mais qu'il y a des choses qui nous rassemblent. Donc l'objectif, ce ne sera pas de mettre tout le monde d'accord sur tout, et c'est pour ça que la coalition ne vise pas à porter des messages qui sont politiques, au sens « il faudrait plus de ci, moins de ça », mais bien de mobiliser les citoyens en disant « on ne pourra pas se passer de la voix des citoyens dans cette lutte contre le changement climatique, et donc nous devons nous mobiliser avec eux, à leur côté, pour interpeller les dirigeants et puis pour enclencher ce changement. » Donc oui, évidemment, il y a des moments où les ADN, j'ai envie de dire, de tel ou tel groupe sont très différentes et donc difficiles à mettre au diapason, mais c'est justement toute la beauté du challenge. Et je pense que c'est ensemble qu'on ira plus loin. Parce que si tout seul, on pourrait aller plus vite, et bien ensemble, on ira plus loin. Donc c'est vraiment la conviction de cette coalition.
Alors on voit, c'est donc une coalition internationale, mais il y a en France, quelles sont les organisations que tout le monde connaît qui participent à cette coalition 21, coalition climat?
Eh bien, vous avez d'une part les syndicats, donc la CGT, la CFDT, Solidaires, FSU, donc tous les syndicats français, en tout cas leur grande majorité, les principaux. Puis vous avez les ONG environnementales, donc Greenpeace en fait partie, le WWF, vous avez également Oxfam, toutes les organisations de développement, vous avez le CCFD, Terre Solidaire, et puis vous avez également les mouvements de la société civile, tels que ADAC. Voilà, donc il y a une grande diversité d'organisations qui sont représentées au sein de notre coalition.
Alors, avant qu'on parle des objectifs précis des quelques semaines à venir avant la COP21, cette coalition, est-ce qu'elle a publié un certain nombre de choses? Est-ce qu'elle prévoit de s'arrêter au lendemain de la COP ou de continuer par la suite?
Alors, oui, notre programme de mobilisation a déjà commencé. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà 2 journées mondiales d'action pour le climat. Une qui s'est déroulée au mois de juin, et puis une qui vient d'avoir lieu là toute fin septembre, les 26 et 27 septembre, à Paris, puis dans toute la France et même dans le monde. Donc oui, il y avait à Paris beaucoup de mobilisation, et c'était un peu le cœur de la mobilisation, mais c'était une mobilisation qui était présente en France dans de nombreuses villes, et puis à l'international. Donc c'était une journée mondiale d'action, là, le 26 et 26 septembre, c'était des journées qui étaient orientées sur tout ce qui était solution à la crise climatique. Comment est-ce qu'on fait la promotion des vraies solutions? Et on en parlera tout à l'heure, notamment, oui, comment dénoncer également les fausses solutions que sont le nucléaire ou le captage et le stockage de carbone. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà fait au sein de cette coalition. Et puis il y a toutes les mobilisations qui auront lieu à Paris, mais pas seulement après Paris, parce que pour nous Paris ne doit pas être la fin de la route. On ne doit pas le 12 décembre tirer le rideau et dire bon bah voilà, c'est bon, on s'est un peu mobilisé pour le climat, maintenant on passe à autre chose, chacun rentre chez soi. Non, c'est hors de question, ça doit être un point de départ, une cristallisation pour un mouvement qui doit grandir et qui doit continuer, parce que de toute façon, quel que soit l'accord de Paris, tout restera à faire dans les pays, sur le terrain, localement, pour mettre en œuvre la transition énergétique et la transition de société dont on a besoin. Donc l'objectif, c'est de continuer à se mobiliser, de continuer à travailler suite à la conférence de Paris.
Eh bien, nous allons interrompre cet entretien pour l'instant avec une chanson de Louis Chédid, et on se retrouve, tu restes en ligne, Sébastien, on se retrouve juste après cette chanson pour continuer notre entretien.
L'enfer, l'enfer, cet effet de serre, bon an, mal an, réchauffe un peu plus l'atmosphère. Arrière, petits enfants, chaud, chaud devant, on pourrait tomber la veste, même à la Saint-Sylvestre. Histoire d'arroseur arrosé, qui nous fait de moins en moins rigoler. Car dans l'arrosoir, c'est la marée noire, le cadeau empoisonné, bidon de gasoil.
au bidon de gasoil, diesel ou sans temps, indice d'octane. Dans les pharmacies, en poule gélule, homéopathie pour bronchiteux et rhumes. Au bidon de gasoil, au bidon de gasoil. Et puis les dériques, l'Arabie saoudite, compter les pétrodollars, raffiner l'or noir, pétrole, mazout, rouler sur les routes, couler dans les pipelines jusqu'à nos capitales, quadrature du cercle vicieux, histoire du serpent qui se mord la queue. Dans 10 ans à peine, tout le monde se promène avec le masque à oxygène. Bidon de gasoil, bidon de gasoil, diesel ou sans plomb, chauffage central. Sur les vêtements, les fruits, les légumes, tuyaux d'échappement, cheminée qui fume. Plus on en consomme, plus ça nous consume. À croire que les hommes, c'est bien plus con que la lune. Bidon de gasoil, bidon de gasoil, diesel ou sans plomb, indice d'octane. Plus on en consomme, plus ça nous consomme. À croire que les hommes, c'est bien plus con que la lune. À croire que les hommes, c'est bien plus con que la lune.
Nous sommes de retour sur Atomic Mac, l'émission de Stop Nucléaire Drôme Ardèche, et toujours avec Sébastien. On parlait un petit peu de l'organisation de la mobilisation. On va essayer de rentrer un peu dans le détail. Donc, la conférence commence le 30 novembre, elle va se terminer le 11 décembre. J'imagine qu'il va y avoir des mobilisations assez fortes à Paris et dans le monde et en France, un peu partout.
Oui, exactement. Alors le programme des mobilisations pour nous au sein de la coalition Climat 21, c'est ça va commencer juste la veille en fait de l'ouverture du sommet à Paris, donc les 28 et 29 novembre, avec une grande marche à Paris le 29 novembre, une grande marche où tout le monde sera invité pour montrer que les citoyens sont mobilisés et qu'ils poussent les dirigeants du monde à l'ambition, à conclure un accord, et puis en montrant également leur solution et puis les personnes impactées pour rappeler ces enjeux, montrer cette force citoyenne en amont du sommet. Ensuite, tout au long du sommet, il va y avoir énormément de choses qui vont se passer. Et puis, je pense que chaque organisation, en tout cas, qui est mobilisée sur ce sommet, aura son propre agenda de mobilisation. Donc, il y a énormément de choses. Mais pour la coalition, eh bien, il y aura déjà une première semaine de village où, à Montreuil, hein, à côté de Paris, où les citoyens pourront venir voir les alternatives. Et puis, à partir de la deuxième semaine, ce sera à l'espace 104 à Paris, un village, un véritable village des alternatives également, toute la semaine, avec des conférences, des débats, des assemblées générales pour sensibiliser et mobiliser les citoyens. Et enfin, le 12 décembre, donc le lendemain de la date officielle de fin de la conférence de Paris, eh bien, une grande mobilisation citoyenne pour dire dirigeants du monde, vous avez ou vous aurez conclu un accord, eh bien, de toute façon, on sait que ce ne sera pas suffisant et on sait qu'il va falloir mettre en œuvre cette transition. Et donc, c'est aux citoyens d'avoir le dernier mot pour vous interpeller, pour que le travail continue, pour que ce ne soit pas un coup de communication politique et enfin déclencher toutes les mobilisations de 2016 et d'au-delà sur le climat. Pour nous, c'est indispensable de faire les choses différemment de d'habitude, j'ai envie de dire, où d'habitude, on se mobilisait énormément pendant les négociations. Et là, vraiment marquer le coup d'arrêt à la fin en disant, oui, très bien, les politiques ont scellé un accord, mais on voit bien que les efforts ne sont pas suffisants. Il faut continuer, il faut aller plus loin. Et puis, nous, citoyens, on veut être part de cette solution, on veut en faire partie. Et donc, voilà, on vous montre qu'on est prêt à agir, prêt à enfin enclencher cette transition énergétique qui est indispensable et qui sera la seule à même de, à la fois, assurer un développement humain harmonieux et puis de respecter les limites de notre planète.
Alors on le voit là, bon, Paris va être un petit peu le centre mondial pendant cette semaine de COP21, bien sûr, sur le climat, mais est-ce qu'on peut déjà entrevoir des mobilisations très massives dans des pays comme la Chine, l'Inde, un peu à l'initiative, un peu comme ce qui s'était passé aux États-Unis avec la grande manifestation new-yorkaise. Est-ce que ça, vous sentez que ça monte aussi dans ces pays-là, ce qu'on appelle les pays émergents?
Alors, au niveau des mobilisations, je pense qu'il n'y aura pas ce type de mobilisation qu'on a pu voir à New York, en Chine ou en Inde. Je pense qu'il y aura beaucoup de plus petites mobilisations, énormément d'initiatives. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de les connecter. L'enjeu, c'est de les connecter car, oui, il y aura du nombre à Paris. Et je pense que Paris va devenir l'épicentre de ces mobilisations. Mais l'enjeu, c'est que ce ne soit pas le seul endroit où on se mobilise, puisque aller à la rencontre des citoyens et mobiliser les citoyens, ça doit se faire absolument partout. Donc, je ne pense pas qu'on aura les mêmes images en Chine ou en Inde. Et puis, les conditions de mobilisation sont souvent plus dures hein, dans ces pays. Mais les gens sont là, se mobilisent de plus en plus, notamment on le voit en Chine pour des questions de santé à cause du charbon, hein, on le voit dans les villes chinoises qui sont devenues irrespirables, et bien les gens se révoltent de plus en plus contre ces conditions de vie, et donc c'est là où les lignes bougent, et c'est là où les lignes doivent bouger. Donc voilà, ce seront des mobilisations qui vont un peu essaimer dans un très grand nombre de pays, notamment en Amérique latine, où il y a cette plus forte tradition hein, des mobilisations citoyennes. Donc je pense qu'on verra beaucoup de belles images et beaucoup de belles mobilisations, notamment voilà, dans tous ces pays.
On l'espère bien, en tout cas on va essayer nous dans notre drôme en tout cas de faire la mobilisation suffisante et nécessaire pour qu'il y ait du monde à Paris venant de notre région. La dernière question, c'est bah, un peu la question qui fâche. Les antinucléaires, ça avait été l'objet même d'une crise dans le mouvement antinucléaire en 2009 sur la solution du nucléaire. Là, on sait que la France mène une grosse campagne aujourd'hui avec EDF, Areva, etc. pour dire que le nucléaire est une des solutions au réchauffement climatique. On voit bien que des pays comme la Chine, l'Inde sont tenter de faire appel au nucléaire pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. La coalition 21, la coalition climat 21, est-ce qu'elle s'est prononcée? Alors tu en as dit un deux petits mots, mais est-ce qu'elle se prononce maintenant réellement en disant que le nucléaire n'est pas la solution?
Alors, au nom de la coalition, non. Au nom de la coalition, non, tout simplement parce que vous avez une très grande diversité d'organisations et qui, je le disais tout à l'heure, dans leur ADN, eh bien, ne peuvent pas porter de message radicalement antinucléaire. Par contre, au titre de Greenpeace, c'est clair que on a identifié cet enjeu-là, ce greenwashing d'EDF, disant « je suis un électricien propre, vous voyez, je fais du bas carbone », tout en masquant le fait qu'on le sait, au-delà hein, même de tous les problèmes de sûreté, de pollution, eh bien, le nucléaire bloque aujourd'hui la transition énergétique, où qu'il soit. On le voit que ce soit dans les pays qui ont déjà du nucléaire, donc comme la France, le résultat de notre choix du nucléaire sur la transition énergétique, c'est qu'on développe trois fois moins vite les énergies renouvelables que nos voisins européens. Et puis de la même manière, dans les pays émergents ou les pays en développement qui souhaiteraient se doter de nucléaire, on voit que ça ne peut pas être une réponse à la crise climatique, puisque les temps, tout ça, encore une fois, hein, au-delà de tous les problèmes de sûreté, tous les problèmes d'accidents, tous les problèmes de contamination, de gestion des déchets, même au-delà de tout ça, si uniquement on oppose nucléaire et changement climatique, eh bien le temps de développement du nucléaire n'est pas adéquat à l'urgence de la réponse qu'il faut apporter au changement climatique. On voit que développer une industrie nucléaire, ça prend des années. La construction de réacteurs aujourd'hui, ça c'est à peu près 10 ans. Et puis, alors que la fenêtre d'action du changement climatique, ce sont justement ces 10 prochaines années. Et donc, au lieu de continuer à développer le charbon et d'attendre que le nucléaire soit là, eh bien, il faut faire le choix des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans tous ces pays-là. Et ça doit être la même chose en France avec une décroissance rapide de notre part du nucléaire et enfin le déclenchement de la transition énergétique.
Oui, bon, on comprend très bien. En fait, si le mouvement antinucléaire veut que la parole antinucléaire apparaisse, il va falloir qu'il se mobilise lui-même dans le cadre de cette coalition climat, quoi, en gros.
Tout à fait, oui. Je pense que c'est important et c'est un message qui devra être entendu et qui devra être opposé parce que de toute façon la stratégie du gouvernement français et de EDF vraiment d'essayer de verdir le nucléaire entre guillemets grâce à la crise climatique est assez cynique. Et donc il faut dénoncer ce cynisme-là et montrer que ce n'est pas la solution. Après c'est un message qui est souvent compliqué pour les gens à comprendre puisqu'ils disent non mais attendez, le charbon c'est beaucoup de CO2, c'est la principale cause du réchauffement climatique aujourd'hui, le nucléaire non. Mais si le nucléaire ne fait pas directement partie du problème, en tout cas n'est pas un des problèmes majeurs sur le CO2 et le réchauffement climatique, en tout cas c'est un bloqueur des solutions. Et ça c'est un message qu'il faut faire passer le plus fortement possible, et c'est une illusion. Développer le nucléaire est une illusion pour apporter une réponse à la crise climatique. Et je crois que c'est ce message-là qu'il faut réussir à faire passer. Après clairement ça va être très difficile durant la COP, puisque la machine à communiquer d'EDF va être très très forte, mais voilà, ça doit être les ENR peut-être la solution, en disant voilà, les ENR sont la solution et pas le nucléaire.
Et puis on pourra dire que Nigériens et Japonais qui seront présents à Paris sauront porter ce message anti-nucléaire aussi. Mais écoute Sébastien, on te remercie beaucoup pour cette intervention. Je pense que nous allons faire une 3 émissions avec celle-ci sur la COP21, donc jusqu'à décembre, et on aura l'occasion de faire intervenir aussi d'autres intervenants sur le sujet. En tout cas, c'est devenu pour nous anti-nucléaire une des priorités de lutter contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup encore et bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Eh bien, après cet entretien avec Sébastien, nous avons notre dernier petit billet. C'est Jeanne qui nous fait son intox désintox. Et ah oui, et c'est moi qui dois te dire quelque chose. Oh, quelle horreur. Eh bien voilà, j'arrive. Jeanne, les énergies renouvelables pourront-elles un jour subvenir à elles seules à la totalité des besoins énergétiques de la France, comme le préconisait d'ailleurs Sébastien?
Oui, c'est une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, qui constate que les énergies renouvelables, éolien, solaire, hydraulique, pourraient subvenir à elles seules à la totalité des besoins énergétiques de la France en 2050. Pour évaluer le potentiel français, les chercheurs ont analysé les données de la NASA concernant la puissance des vents, du soleil et la force des marées et de la houle, avant de convertir ces données en capacité de production d'électricité. Ce potentiel a ensuite été confronté aux contraintes, reliefs, réserves naturelles, présence d'habitations, et bonne nouvelle, le gisement est bien réparti à l'échelle du pays. Le but de cette étude n'est pas d'imaginer l'avenir énergétique de la France, précise David Marshall de l'ADEME, mais simplement de combler un déficit de connaissances sur l'intégration massive d'énergies renouvelables en France, études qui ont déjà été menées aux États-Unis et en Allemagne. On se demande pourquoi chez nous ça n'a pas été fait. Alice Schisch, qui participe à l'étude, explique que la situation a porté sur 7 années météorologiques, heure par heure, puis la simulation a été combinée à des scénarios de demande d'électricité. Le 100% renouvelable assure en tout point l'équilibre entre l'offre et la demande. Là où les chercheurs de l'ADEME se montrent convaincants, c'est qu'ils ont simulé les situations les plus périlleuses pour le système électrique. Verdict des algorithmes, ça passe toujours.
Alors, qu'en est-il du réseau pour distribuer cette énergie dispersée?
Alors, les chercheurs de l'ADEME ont été surpris de constater que le réseau français actuel peut faire face à de fortes capacités d'énergie intermittente. Notre pays dispose de plusieurs atouts pour gérer au mieux une production d'électricité en dents de scie. La première, c'est qu'on a de nombreuses installations hydroélectriques mobilisables en moins de 10 minutes. Et on a également 6 stations de pompage-turbinage formées de 2 retenues artificielles aménagées à des altitudes différentes. Dans un sens, on produit de l'électricité même en urgence. Dans l'autre sens, on stocke quand il y a trop d'électrons dans le réseau.
Et comment organise-t-on ce stockage?
Alors le tout renouvelable ne doit plus être considéré comme impossible, même s'il exige de faire appel à d'autres formes de stockage que les précédentes dont j'ai parlé. La résolution des problèmes de stockage est plus à la portée des chercheurs que le nucléaire dit « propre ». La recherche sur le nucléaire « propre » entre guillemets a commencé dans les années 60, se poursuit actuellement pour une ouverture hypothétique en 2050. 90 années de recherche et développement sur le même sujet, il n'y a que dans le nucléaire qu'on voit ça. Le seul problème avec les énergies renouvelables, c'est d'avoir confié l'exploitation à des sociétés en charge, soit du nucléaire, soit des énergies fossiles. Ces grands groupes industriels pensent plus à faire du fric que du vent. En outre, l'ADEME va peut-être avoir du mal à poursuivre ses études, puisque l'État va prélever en 2016 90 millions d'euros sur le fonds de roulement, chiffre à comparer avec les 590 millions d'autorisations de programme en 2015. Combien de temps le gouvernement pourra-t-il continuer à prétendre promouvoir une France exemplaire sur le climat et faire l'inverse?
Merci Jeanne, et les références de ton intervention sont présentes sur le site de Sortir du Nucléaire. Oh là là. Et puis ben, on va attaquer maintenant sur notre agenda de mobilisation qui vont être importantes avec la COP21.
Tout à fait, ce mois d'octobre est assez dense et la fin d'année aussi prévoit pas mal d'événements. Donc je vais essayer de faire assez vite malgré tout. Pour commencer, donc ce mercredi 7 octobre à 20h à la Frapna est organisé par Stop Nucléaire 2607 et l'association REC Réaction en chaîne humaine Une réunion à destination des associations, partis politiques et syndicats membres de la coalition 21 afin de réfléchir aux actions à mener justement dans le cadre de la COP21 et notamment d'organiser la montée à Paris pour la grande manifestation dont a parlé tout à l'heure notre invité du 12 décembre voilà, à Paris. Donc si vous voulez vous investir pour organiser tout ça, vous êtes les bienvenus le 7 octobre à 20h au local de la Frapna, avenue de Verdun. À Valence, voilà. Toujours sur le thème de la COP21, le journal La Décroissance organise le 14 novembre à Vénissieux, donc à côté de Lyon, un contre-sommet mondial sur le climat. Donc si vous voulez avoir des informations sur cet événement, allez directement sur le site www.contresommettoutattaché.org. Voilà. Ensuite, sur Valence, le jeudi 15 octobre à 20h aura lieu à l'Université Stendhal à Valence une conférence avec Annie Thébaumoni. Cette conférence évoquera l'asservissement de la science officielle, mais aussi dans la lutte contre les risques industriels, l'émergence de contre-pouvoirs. Voilà. Donc ce sera certainement très intéressant. Donc je rappelle la date, le jeudi 15 octobre à 20h à l'université.
On note ça.
De Valence. Voilà. Ensuite, on continue. Samedi 17 octobre, le collectif Halte au nucléaire Gare organise une journée d'information-débat sur le thème des menaces sur la santé dues au nucléaire. Donc c'est des manifestations qui se tiendront à Alès ou Nîmes. Donc si vous avez l'occasion d'aller dans cette région, vous pouvez trouver le programme complet de cette journée sur notre blog. Voilà, qui n'a pas changé de nom pour le moment, qui s'appelle toujours sdn2607.org. Voilà, ensuite, donc un petit point CRIRAD, puisque se tiendra le 22 octobre à partir de 14h30 une conférence sur le radon, donc polluant de l'air intérieur, avec Julien Sirène de la CRIRAD. Et donc cette conférence aura lieu à l'INED à Rovaltin, donc à côté de la gare TGV. Par contre, c'est sur inscription, donc les inscriptions sont à faire par mail à contact@fcrrovaltin, donc fcsrovaltin.org. Voilà. Et ensuite sur la CRIRAD participera aux journées de la science du 9 au 11 octobre à Valence. Donc là, si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur le site de la CRIRAD. Et pour finir, notre réunion mensuelle de Stop Nucléaire 2607 se tiendra donc le 26 octobre à 18h30. Le lieu.
Ben, le lieu n'est pas déterminé
pas
encore,
déterminé
mais
encore.
On le dira.
Sur notre blog également.
Site.
Voilà.
Eh bien, merci Céline.
C'est déjà pas mal.
Je rappelle que vous pouvez nous contacter sur notre répondeur au 08 05 69 67 58. C'est un appel gratuit. L'équipe d'aujourd'hui, elle était assez importante, avec Annie, notre nouvelle, Jeanne, Georges, Céline, Jean-Pierre à la technique et Dominique, et puis Vanessa, qui est très enrhumée, qui n'a pas fait de billet aujourd'hui, mais elle est dans les murs, elle est là, on la voit, voilà. Et je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter toutes nos émissions sur le site de Stop Nucléaire Dromardèche et également sur le site de Radio Méga. Voilà, et bien nous allons terminer avec Tiken Jaffa Coli encore, Ouvrez les frontières, et ce sera notre mot de la fin.
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
chemin de l'école.